Tu es très coupable, prends ton point total. Tu es fou enfermé, raison déconnecté. On t'attache à ton lit, ton lit. Tu hurles dans ton délire. Tu ne peux plus agir. C'est cela la médecine. Des couloirs trop blancs. Bois ton médicament. Tu es dans quatre murs. Des pilules, des piqûres. Ça va durer des mois. La folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse disparaisse, se passe. Voilà la traveneuse. Ta solution est queuse. Si c'est ça la médecine, je préfère la guillotine. Si c'est ça la médecine, je préfère la guillotine. Si c'est ça la médecine, je préfère la guillotine.
Radio Libertaire 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. C'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, avec aujourd'hui André Bitton. Bonjour André.
Bonjour.
Qui représente le CRPAL, le Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie.
Oui,
et
bonjour.
Nous commentons l'actualité.
Voilà, alors là, on a une actualité, quand même, c'est la rentrée, quoi. Il y a tout d'abord une drôle d'affaire qui a été heureusement soulevée, d'ailleurs, et documentée par un journaliste de Les Jours et de Street Press, Anna Pitch, qui est également une dessinatrice et qui fait des articles bien faits, d'ailleurs, accompagnés de bandes dessinées. Si bien qu'on a, une vue et par dessin et par le texte de ce qui est enquêté. Et en l'espèce, c'est le décès suspect d'un jeune homme de 39 ans, rendu chronique par chronicisation, hein, psychiatrisé et médiqué depuis l'âge de 19 ans hein, à peu près, et décédé selon une véritable bavure à l'hôpital psychiatrique de Brumath près de Strasbourg en 2012. Et la famille, particulièrement procédurière et bagarreuse, et heureusement, a engagé recours sur recours. Un non-lieu a été prononcé, qui a été confirmé en cour d'appel et confirmé par la Cour de cassation. Et depuis un an, cette famille, la famille Kerbach-Zanouti et autres, est devant la Cour européenne des droits de l'homme. Chose excellente, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen au niveau juridiction interne française pour débloquer ce genre de situation. Les juridictions en France considèrent que l'aléa thérapeutique ou bien les morts par violence, par contention, par là en l'espèce c'est un étranglement, bien sont classés morts naturelles. Les juridictions ne mettent pas en cause les parquetiers notamment et les juges d'instruction et les juridictions répressives ne mettent pas en cause, se refusent à mettre en cause leurs collègues de l'institution répressive psychiatrique. Pour commencer. Et donc, il n'y a pas de jurisprudence positive en droit interne français, au plan pénal, je dis bien au plan pénal, pas au plan de la juridiction administrative, en ce qui concerne l'aléa thérapeutique, les violences sur patients ayant entraîné la mort de façon plus ou moins involontaire, ou volontaire selon. Bon, là, c'est bel et bien traitement inhumain et dégradant, et homicide censé être involontaire. Donc, ce qu'il y a de bien dans cette affaire, c'est que pour la première fois, à ma connaissance, cette affaire monte en Cour européenne des droits de l'homme et la magistrature de la Cour européenne des droits de l'homme a interrogé le gouvernement français en posant un ensemble de questions sur ce décès et sur les conditions de suivi. Cela préfigure une condamnation. Et ce serait une première pour la France. Ce serait la première fois que la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France sur un décès suspect en établissement psychiatrique d'un patient dépendant. Jusqu'à présent, la France avait été condamnée en gros pour internement arbitraire et pour délai déraisonnable hein, de traitement des demandes, des contestations en droit interne. Donc, je vais donc donner lecture des principaux passages de cet article d'Anna Pitch dans Les Jours, ce nouveau journal en ligne issu de. C'est des journalistes issus de Libération qui l'ont monté. Et puis ensuite, je vais également donner connaissance du contenu d'une dépêche de Spi Média du 10 septembre sur des dispositifs numériques de surveillance en santé mentale en l'espèce pour diagnostiquer des dépressions et également pour surveiller la prise de traitement, pour surveiller la compliance, et mettant en jeu des dispositifs d'intelligence artificielle. Or, on sait qu'en matière de psychiatrie santé mentale, se déploient à l'heure actuelle les robots conversationnels. Et par ailleurs, une autre dépêche de Spimedia du 11 septembre sur la crise d'attractivité en psychiatrie qui est, pour la DGOS, le ministère de la Santé, le nœud du problème pour l'autorité ministérielle, puisque les postes, un quart des postes de psychiatres des hôpitaux restent vacants et l'on fait appel aux médecins à diplôme étranger qui sont taillables et corvéables à merci, parce qu'ils ne sont pas titulaires et non titularisables. Voilà, c'est le programme de cette émission.
Eh bien, nous allons commencer par donc, cette affaire de Youssef Zanouti.
Voilà.
Qui s'est retrouvé donc mort à la suite d'une...
D'un étranglement. En fait, d'après la séquence telle qu'elle est reportée du travail juridictionnel, ils ont voulu le mettre en isolement. Il a été récalcitrant, il continue à réclamer ses cigarettes. Ils ont fait appel à un personnel de sécurité et ces deux personnels ont fait une clé, l'un au bras, l'autre au cou, et en serrant la glotte.
Oui, on va rentrer dans les détails.
Donc, cet article est justement intitulé, je renvoie à mon témoignage de 95 publié sur la code chronologique de mai 95 sur le site du CRPA, parce que c'était à peu près le même contenu, puisque je disais clairement que j'ai vécu vol au-dessus d'un nid coucou. Je l'ai vécu, je ne suis pas le seul. Bon, et donc 20 ans, 40 ans après, ça n'a pas changé. Vol au-dessus d'un nid de violence. Ce n'était pas un hôpital, c'était le couloir de la mort. Le 14 septembre 2012, Youssef Zanouti mourait lors d'un séjour en psychiatrie. 13 ans plus tard, sa famille se bat toujours pour obtenir justice. Alors, je me permets quand même une incise. Il se trouve qu'en l'espèce, je pense que la famille en question est franco-algérienne, musulmane. Pour une raison simple, c'est que les Algériens, ou les issus français, issus de cette part de l'Afrique du Nord, qui était très longuement colonisée, ont beaucoup plus l'habitude des autres franco-nord-africains, des procédures, et de se battre contre l'État. Parce que c'est des traditions très anciennes dans leur famille. Bon. 14 septembre 2012, Youssef Zanouti, 39 ans, hospitalisé au service de psychiatrie de Brumath en Alsace, qui est une sale boîte, je rajoute, décède d'un arrêt cardiaque. Mais tout le monde meurt d'un arrêt cardiaque, Alors qu'il est plaqué au sol et maintenu par une clé de cou pendant 20 minutes par trois infirmiers et deux agents de sécurité qui reconnaissent en cours de procédure le recours à un étranglement. Rejetant l'existence d'un lien de causalité entre le décès et l'usage de la force, la justice, je rajoute pénale, prononce un non-lieu. 13 ans plus tard, sa famille se bat encore et toujours pour rendre justice à Youssef, mort dans l'indifférence des institutions hospitalières et judiciaires. Représentée par son avocat, Julien Martin, elle a engagé, la famille, tous les recours judiciaires possibles jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, dont la décision est attendue prochainement. Depuis son adolescence, Youssef Zanouti est suivi par un psychiatre et pris en charge par sa famille pour une schizophrénie déclarée brusquement à la suite d'un épisode traumatique lors d'une colonie de vacances alors qu'il était âgé de 16 ans. Épisode traumatique. Ça laisse entendre qu'il aurait eu soit un bizutage, soit un viol. Bon. Donc, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé là-bas. Raconte au jour sa sœur Malika. On a appris qu'il avait disparu pendant plusieurs jours. Quand il est revenu, il avait des hallucinations. Il a dû être hospitalisé pendant 2 mois. Après, il a fallu s'occuper de lui. Il ne pouvait rien faire seul. Il ne parlait plus. Il avait peur de tout. C'était comme un enfant, mais il n'a jamais été violent. Il n'a jamais posé de soucis. Il était suivi par son psychiatre et on s'est occupé de lui tout le temps jusqu'en 2012, sa mort. Il n'a pas toujours été comme ça, se remémore son autre sœur Fatima. Avant, c'était quelqu'un de très vivant, de très drôle, qui chantait, faisait du rap et du hip-hop. Il écrivait ses propres chansons, mais quand il est revenu, on a récupéré un garçon effrayé, mutique, coupé du monde. Ça laisse à penser une initiation qui s'est mal passée avec des stupéfiants. parce que c'est pas dans ces colonies de vacances, on pratique les initiations. Hein, quand même.
Oui, alors là, ce sont des hypothèses.
Ce sont que des hypothèses, mais je trouve ennuyeux qu'on ne se soit pas n'ait pas eu d'investigation. Mais ça, c'est lieu ou non lieu. Ils n'ont pas pu aller plus loin. Peu après, de toute façon, dans cette procédure, c'est pas la question, mais ça interroge. Ça interroge. Donc, peu après minuit, alors qu'il était hospitalisé à Brumath, Youssef Zanouti demande à pouvoir fumer. Les infirmiers refusent, il insiste. Les soignants lui administrent alors un neuroleptique. Pas n'importe quoi, du Loxapac, hein, c'est très violent. Bon, ça, c'est le résumé. Donc, début septembre 2012, Youssef souffre d'insomnie depuis plusieurs jours. Dans ces moments-là, il partait marcher la nuit. On avait peur qu'il fugue, alors on a décidé de l'hospitaliser le temps que ça aille mieux. La famille a voulu le protéger. 7 jours plus tard, dans la nuit du 13 septembre 2012, aux alentours de 3 heures du matin, Malika reçoit un appel de la gendarmerie qui lui annonce le décès de son frère alors qu'il est hospitalisé à l'établissement public de santé Alsace-Nord, Ebsan de Brumath, au nord de Strasbourg. Il est parti pour se faire soigner, on ne l'a plus jamais revu. Ce n'était pas un hôpital, c'était le couloir de la mort, s'indigne Malika avec émotion. Selon le personnel infirmier, cette nuit-là, Youssef Zanouti se présente au poste de soins peu après minuit pour accéder à ses cigarettes. Dans n'importe quelle unité psychiatrique, un patient qui vient après minuit réclamer ses cigarettes, on lui refuse, hein, maintenant, hein, faut être clair. Hein, voilà. Il se dirige vers l'armoire où sont entreposés les paquets remis par sa famille. Les soignants refusent. Youssef insiste, mais sans montrer de signe d'agressivité, précise l'avocat de la famille, se référant aux déclarations des agents de sécurité eux-mêmes. Les infirmiers lui administrent 100 gouttes de l'Oxapac, ce qui est un neuroleptique très puissant. Bon. Un neuroleptique qu'il prend habituellement. Ça veut dire qu'il était pharmacorésistant, hein, quelque part. Ce médicament ne calme pas, parce que moi, on m'administre ça, je tombe par terre. Hein, voilà. Ce médicament ne calme pas pour autant le manque de nicotine et Youssef réitère sa demande. Refusant de céder, les soignants font appel à 2 agents de sécurité qui interviennent rapidement. En arrivant au niveau de la salle de soins infirmiers, déclare l'un des agents au cours de la procédure, nous voyons sortir l'infirmier et l'infirmière, accompagné d'un patient qui raconte n'importe quoi, des propos incohérents, il n'a pas de signe d'agressivité physique ou verbale, on ne comprend pas ce qu'il dit, ça n'a ni queue ni tête, on comprend juste qu'il veut fumer, il le répète plusieurs fois, il nous suit sans difficulté. Les 5 agents réunis emmènent ensuite Youssef en chambre d'isolement et exigent qu'il se déshabille à l'entrée. Il s'oppose à cette demande et continue de réclamer une cigarette. C'est alors que les agents décident de le mettre au sol en recourant à une clé de cou et une clé de bras. Ils le maintiennent au sol pendant de longues minutes, il perd connaissance, les tentatives de réanimation restent vaines, sa mort est constatée à 1h30 du matin, ce 14 septembre 2012. Oui. Le patient a enfreint des règles de sécurité que les patients doivent connaître. Il ne faut pas être opposant dans ces cas-là. Mais bon, quand la déficience est là, voilà, c'est tout. Hein. Mais pour de bon, hein, les patients se donnent entre eux cette consigne de sécurité de ne pas être opposant, voyons. Hein, puisque vous êtes dans les mains de l'État, des agents qui ont le pouvoir sur vous. Bien, voilà, mais c'est un crime. C'est un crime, hein. Voilà. Ils voulaient juste fumer une cigarette et juste pour une cigarette, ils l'ont tué. Une situation incompréhensible pour les sœurs de Youssef. Mourir au bout de 7 jours parce qu'il voulait juste fumer, c'est inimaginable. On avait pourtant prévenu l'hôpital qu'il avait besoin de fumer et que tout allait bien si on le laissait fumer. On leur avait aussi dit qu'il avait peur des gens, qu'il fallait tout lui expliquer, ne pas être trop autour de lui. Et personne n'a pris en considération ce qu'on avait dit. 5 personnes sont mises sur lui. Il a été étranglé. On peut pas faire ça à des gens. Les personnes qui travaillent en psychiatrie devraient être mieux formées. Oui, ça, oui. Il voulait juste une cigarette. Il aurait fumé. Il serait allé se coucher après. Alors, d'après les déclarations en procès-verbal de police judiciaire, un des agents de sécurité a déclaré « Mon collègue l'attrape par derrière pour lui faire une clé de cou. Il place son bras gauche par devant sa gorge. Il place l'arête de sa main par-dessus la glotte. Mais il n'y est pas arrivé. Vulgairement dit, ça s'appelle un étranglement. » Il est souligné que cet agent n'était pas suffisamment formé et ne savait pas faire sa clé, quoi. Julien Martin, l'avocat de la famille, dénonce l'usage disproportionné de la force par les agents de sécurité. L'un d'eux le reconnaît d'ailleurs dans ses déclarations. Bien, vulgairement, ça s'appelle un étranglement, lit-on dans la requête déposée auprès de la CEDH.
Les déclarations des agents de sécurité sont accablantes et corroborées entre elles, observe l'avocat, qui souligne le caractère manifestement disproportionné de l'usage de la force. Il n'y avait pas de problème, c'était pas quelqu'un de dangereux, il ne posait pas de difficultés, il n'était pas agité, donc ce n'était ni nécessaire ni proportionné. En plus, il y avait un problème de formation des agents, puisque l'un n'est pas parvenu à faire une clé de cou correctement, c'était un étranglement. Alors, ils ont fait une marche blanche à Bichwiller, en mémoire de Youssef Zanouti, le 7 octobre 2012. Les familles engagent leurs responsabilités hein, aussi dans ce genre d'affaires, dans leur croyance dans la psychiatrie. Hein. Les familles sont croyantes, hein, quand même. Mais bon, on ne peut pas leur reprocher.
Ça n'a rien à voir, donc.
Bah, je m'excuse si ça a à voir, c'est-à-dire que les familles qui confient leurs parents à l'institution béatement en croyant aux soins dans ces institutions pourraient de nos jours avec l'Internet mieux s'informer. Hein. Mais bon, là en l'espèce, le drame est tel que c'est terminé. On n'a rien à leur dire. Pourtant, malgré les déclarations des agents et le caractère concomitant de l'usage de la contention et de la survenue du décès de Youssef Zanouti, la première expertise du médecin légiste écarte un syndrome asphyxique lié aux méthodes de contention des agents comme étant l'origine de la mort. À la demande de la famille, une contre-expertise est demandée. Missionné par le juge d'instruction, c'est le même médecin qui rend en 2018 un second rapport. Normalement, il aurait dû être désisté. On ne commet pas à deux reprises un même expert. Non, désolé, on ne commet pas à deux reprises un même expert dans les expertises. Un élément contestable pour l'avocat, la contre-expertise a été faite par deux médecins dont l'un avait déjà fait la première expertise. Ce n'était pas vraiment une contre-expertise. Voilà. Elle n'était pas régulière.
Oui, c'est assez scandaleux, ça, en fait.
Mais évidemment, c'est scandaleux. C'est irrégulier. C'est une faute. C'est une faute. C'est même une faute et c'est même une nullité qui aurait dû attirer les magistrats de la Cour de cassation. Et normalement, c'est le genre de faute qui peut être soulevée d'office par les magistrats. Il y a une différence entre des moyens qui sont soulevés par les avocats auxquels doivent répondre les magistrats et les moyens que les magistrats peuvent soulever d'office, qu'ils soient soulevés ou non par la défense. Cette seconde expertise conclut cette fois une mort subite certaine. Donc, il conclut à une mort subite. La mort subite, c'est lorsqu'on te prescrit un traitement et que de cet effet de ce traitement, tu mords. Bon, les experts indiquent alors que l'intervention des services de sécurité et la contention ont entraîné un fort état d'agitation, favorisant des troubles rythmiques, d'où la crise cardiaque. Ils concluent que c'est la conjonction de cette contention associée à un potentiel trouble cardiaque préexistant, ce qui est très fréquent chez les patients qui prennent au long cours des traitements psychiatriques puissants, qui aurait conduit au décès. Cette haute probabilité causale d'un trouble cardiaque non décelé auparavant ayant entraîné la mort subite du patient a motivé la décision non-lieu rendue par le juge d'instruction. C'est-à-dire, il faut savoir qu'au pénal, il doit y avoir l'intentionnalité. L'intentionnalité. Si le délit n'est pas intentionnel, à ce moment-là, la voie pénale peut se refermer. Dans son ordonnance de non-lieu en date du 21 février 2020, c'est-à-dire on est pratiquement 8 ans après le décès, le juge d'instruction affirme, alors qu'une instruction qui a duré autant de temps, c'est vraiment, les diverses investigations médico-légales permettent de conclure avec la plus haute probabilité à une mort subite causée par une défaillance cardiaque, estimant que les manœuvres de contention n'ont à aucun moment empêché YZ de respirer. Il a ainsi conclu à l'absence de lien de causalité entre le décès et un quelconque comportement de la personne morale de l'EPSAN et du personnel médical et de sécurité. Donc il dégage la responsabilité de l'institution. L'enquête et de ses agents. L'enquête prend donc fin sans que ni la responsabilité de l'hôpital ni celle des agents ne soient engagées. Au pénal, je rajoute, parce que la voie administrative peut être ouverte devant le tribunal administratif. Et il arrive que le tribunal administratif sanctionne au plan d'une indemnité contre l'institution. Bon, mais bon. C'est pas satisfaisant, c'est nous. L'enquête prend donc fin. Bon, voilà, malgré les recours de la famille, cette ordonnance est confirmée en appel, puis par la Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire française, un véritable déni de justice pour la famille après plusieurs années de procédure. Il faut savoir que la Cour de cassation, chambre criminelle, parce qu'ils sont à la chambre criminelle, hein, a aussi une très vieille jurisprudence selon laquelle si un malade mental en état de crise est tué, l'état de crise et la maladie mentale combinée exonèrent de faute. Bon. Bon, ça c'est une très belle jurisprudence, mais enfin il serait temps qu'elle soit renversée. Donc alors, Desiderata de la famille résumé par l'avocat, ce que nous attendons, c'est que la Cour reconnaisse que l'usage de la force à l'encontre de Youssef Zanouti était manifestement disproportionné et non nécessaire. En 2023, après avoir effectué tous les recours permis par le droit français, la famille de Youssef saisit la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme, afin de démontrer l'usage manifestement disproportionné de la force des agents de sécurité et infirmiers. Ce non-lieu s'oppose, selon leur avocat, à la jurisprudence constante de la CEDH, qui établit une présomption de responsabilité des autorités. Dès le moment, il s'agit de personnes dépendantes, hein, de personnes déficitaires. Il est entré en bonne santé à l'hôpital, il en est ressorti mort, et c'est une présomption de responsabilité des autorités. Quand quelqu'un entre en bonne santé dans un service, que ce soit un commissariat de police, un hôpital ou sous la surveillance des agents de l'État, et qu'il en ressort mort ou en moins bonne santé, il y a une présomption de responsabilité de l'État. Ce que nous attendons, c'est que la Cour reconnaisse que l'usage de la force à l'encontre de Youssef Zanouti était manifestement disproportionné et non nécessaire. Cesser dénonce également la violence secondaire de la justice. C'est intéressant que leur famille a subi pendant toutes ces années. C'est un vrai combat. Il est décédé en 2012 et on est en 2025. C'est-à-dire l'épuisement des voies de recours se fait 11 ans après le décès et après le déclenchement de la plainte. C'est manifestement déraisonnable. Bon, mais là, ça serait une procédure distincte. Donc, sauf si la Cour européenne des droits de l'homme condamne là-dessus, mais enfin bon, elle a une jurisprudence ancienne là-dessus, cette protestation au niveau CEDH est fermée pour la France. Comment faire encore confiance à la justice? Il y a des failles dans ce dossier. La violence de la justice nous a autant meurtri que le décès lui-même. Face à elle, on était tout petits, on nous fermait toutes les portes, tout était bloqué. Nos parents sont morts sans avoir vu la justice être rendue, leurs parents. Et ça nous a détruits. L'hôpital a pris une vie et la justice nous a détruits intérieurement. Contacté par les jours, l'hôpital de Brumath n'a pas répondu à nos sollicitations. C'est Anapiche qui parle. Toujours en attente de la décision de la CEDH, ça ne va pas tomber avant 1-2 ans encore, la famille de Youssef Zanouti, qui a montré une détermination sans faille, ce qui est très bien, c'est très courageux, ne se fait pourtant pas d'illusions. On ira jusqu'au bout, même si on gagne l'affaire, c'est des choses qui ne s'oublient pas, une souffrance qui ne partira pas. Ce n'était pas une mort accidentelle, il est mort dans la souffrance et dans la peur alors qu'il était dans un hôpital. Un combat pour la justice, qu'elle sait pourtant nécessaire, on ne peut pas laisser passer ça. Aussi pour toutes les autres personnes qui sont hospitalisées en psychiatrie, ça peut arriver à n'importe qui. Personne ne mérite d'être traité de la sorte, c'est une immense injustice. Alors ce qui est intéressant, cette conclusion est très utile, parce que la Cour européenne des droits de l'homme, depuis une quinzaine d'années à peu près, a resserré ses critères d'admission, parce que submergé de recours, notamment venant de la Russie et de la Turquie, et des anciens pays de l'Est, puisque ces pays sont signataires de la Convention européenne des droits de l'homme. Ah non, la Russie a suspendu sa signature depuis l'entrée en guerre, en sélectionnant des dossiers qui sont des cas d'école. Bon. Donc, en fait, c'est des arrêts de principe qui sont rendus si elle condamne. Et donc, si elle condamnait en la matière, la Cour européenne rendrait un arrêt de principe s'appliquant pour la France, et qui pourrait être contraignant au plan juridique interne français, comme au plan diplomatique, d'ailleurs, au plan politique, puisque des requérants pourraient s'appuyer sur cette jurisprudence de la Cour devant les juridictions judiciaires en disant « vous suivez cette jurisprudence de la CEDH, vous la suivez, vous en faites application ». Et à ce moment-là, il en dépend de la mise à effet dans les juridictions de cette polémique que maintenant on connaît entre l'état de droit et l'état du droit. Ah oui. Parce que cette polémique, maintenant, on la connaît. Elle s'est amorcée à la fin du sarkozisme, mais maintenant, on l'a. Bien. Donc, il s'agit là d'une affaire vraiment très importante, parce que, pour de bon, et notamment pour les militants engagés, la question de pouvoir être interné ou réinterné et de sortir mort les pieds devant d'une institution psychiatrique est une vraie question. Bon. Alors, maintenant, voyons voir les questions posées le 30 octobre 2023 au gouvernement français par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors d'abord, le gouvernement français est représenté dans ses affaires par un bureau, le bureau droits de l'homme du ministère des Affaires étrangères. C'est le Quai d'Orsay qui gère ses affaires juridico-politico-diplomatiques, puisque le Conseil de l'Europe est un organe diplomatique. Alors bon, le greffe de la cour a fait une synthèse, et après on a les questions. Alors, les questions aux parties. Première question. Le droit à la vie du frère des requérants, consacré par l'article 2 de la Convention sur le droit à la vie, a-t-il été violé en l'espèce ? En particulier dans les circonstances de l'espèce, caractérisées par le fait qu'YZ était un patient atteint de troubles mentaux schizophrénie, donc vulnérable, très vulnérable, hospitalisé sous contrainte afin de recevoir des soins et comme tel vulnérable. A, donc 1A, son décès est-il résulté d'un recours à la contention physique rendu absolument nécessaire et strictement proportionnel au sens du paragraphe 2 de l'article 2 mentionné, voire notamment mutatis mutandis, jurisprudence CEDH citée. B, 1B, de manière générale, les autorités internes françaises ont-elles respecté leur obligation positive de protéger la vie de YZ au sens de l'article 2 de la Convention, notamment en prenant toutes les mesures requises pour empêcher qu'elle ne soit inutilement mise en danger, y compris en cas de nécessité de recours à la force par l'instauration d'un cadre réglementaire adéquat. Donc les textes en la matière sont-ils suffisants ? Parce que par l'instauration d'un cadre réglementaire. Donc, est-ce que le cadre réglementaire français est suffisant ? Bon, c'est intéressant, ça on appelle une réforme. Enfin, une réforme. Les règlements, les textes réglementaires sont pris par le Premier ministre et les ministres concernés. Hein, ce n'est pas le Parlement. Alors, deux, au regard du volet procédural de cette disposition, voire parmi beaucoup d'autres jurisprudences, les investigations effectuées en l'espèce par les autorités internes quant aux allégations des requérants au terme desquelles il aurait été porté atteinte au droit à la vie de leur frère YZ ont-elles satisfait aux exigences de l'article 2 de la Convention ? Autrement dit, les juridictions et dans le circuit juridictionnel et judiciaire de cette affaire, est-ce que les autorités judiciaires ont suivi les exigences de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ? Dans l'hypothèse où le droit à la vie du frère des requérants consacré par l'article 2 de la Convention ne serait pas violé, ce dernier a-t-il subi un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention ? Autrement dit, si le droit à la vie n'a pas été enfreint, est-ce que l'interdiction des traitements cruels, inhumains et dégradants, de la torture, quoi, bon bref, est-ce que l'article 3 qui porte là-dessus, sur cette interdiction, a été violé ? Le gouvernement est invité à produire au greffe de la Cour, donc au contradictoire, au greffe de la Cour, ça veut dire également au parti, une copie de la procédure d'hospitalisation sous contrainte concernant YZ qui faisait suite au certificat médical du centre hospitalier de Haguenau du 6 septembre 2012, en particulier tout autre certificat médical établi après cette date dans le cadre de l'admission de YZ en application de l'article 32.12.1 du Code de la Santé publique, notamment le second certificat médical d'admission. 32.12.1, ça veut dire qu'il a été admis sur demande d'un tiers, donc sur demande d'un membre de sa famille. Ce qui engage encore plus la responsabilité, et c'est bien pour cette famille de s'être bagarrée, parce que sa responsabilité est d'engager là-dessus, et en se bagarrant jusqu'au bout, elle désengage, elle enlève sa responsabilité dans cette affaire, et va se bat pour son parent et pour elle-même. Ce qui est très courageux, parce que tout le monde ne le fait pas, hein, ça. Donc, le gouvernement est invité à préciser le statut des agents de sécurité qui ont immobilisé le patient, était-il assermenté, à préciser le cadre juridique applicable au sein de l'EFSAN de Brumath aux interventions impliquant le recours à la contrainte, voire à la force sur les patients, notamment quant à la formation des agents de sécurité, ainsi que du personnel soignant de l'EFSAN, le cas échéant, à des gestes de contrainte physique tels que la clé de cou décrite par les personnes intervenues le soir des faits. Je serais curieux de savoir si la HAS, suite à cette affaire, a continué d'accréditer cet établissement. Ça, on peut le savoir. Donc après, c'est un tableau qui récapitule date, nom de l'affaire, date d'introduction, nom du requérant, année de naissance, nom du représentant en ville, puisque maintenant, les procédures judiciaires sont quand même très informatisées. C'est pas mal.
Oui, c'est la question aussi de mais comment ça se fait qu'un quelqu'un qui est à peu près en bonne santé entre dans un hôpital et en ressort mort ou
eh bien, ça repose. Santé, nous, on a traité, moi j'ai traité personnellement quelques affaires exemplaires là-dessus, ce qui nous arrivait. On en a conclu, c'est ça le problème, moi j'en ai conclu sur plusieurs de ces affaires, les institutions psychiatriques en tant qu'institutions, soit étatiques, enfin bon, parce que c'est la fonction publique hospitalière, ou bien ce sont des établissements privés conventionnés par l'État, donc habilités à une mission de service public. Ces institutions, comme d'ailleurs les hôpitaux généraux, comme d'ailleurs les prisons, comme d'ailleurs l'armée, ont un permis de tuer.
Oui.
Tout court.
Mais... Il est tacite parce qu'en fait, on ne dit pas aux infirmiers...
Non, il n'est pas implicite, puisque la jurisprudence parle négativement. Et si la jurisprudence et les juridictions internes parlent négativement, c'est qu'elle légalise, enfin, elle régularise ce permis de tuer. Tiens, moi, je rigole pas lorsque je te cite cette jurisprudence de la Cour de cassation qui avait été citée dans un internement abusif très vieux de 78 qui avait prêté lieu à une condamnation de l'hôpital et de l'État, l'hôpital de la Marne, dans l'espèce, je crois, oui, c'est ça, en 2000, confirmé en 2002, où l'avocat de la Défense avait plaidé cela sans que cela puisse être retoqué. Bien. Au motif, alors, le raisonnement était le suivant. L'avocat, le cabinet qui défendait l'hôpital de Lagny, disait en l'espèce, écoutez, la jurisprudence de la Cour criminelle de la Cour de cassation, parce que la requérante, qui était très procédurée, qui avait eu raison, hein, parce qu'elle défendait son honneur, c'était une beaufette, mais elle a défendu son honneur, elle a bien fait, elle s'est battue pendant plus de 20 ans. La jurisprudence de la Cour criminelle de la Cour de cassation veut que si une personne atteinte, développant des troubles lors d'un conflit quelconque, est tuée, la présence de cette maladie mentale exonère de faute. Et donc, par voie de conséquence, il s'en ensuit qu'une personne qui est admise pour une pathologie mentale et qui ne peut pas être qui ne peut pas être invalidée, on ne peut pas invalider cet argument, la faute commise par l'administration qui la saisit, s'en empare et l'interne est nulle de par la maladie mentale.
Oui.
Bon, vous voyez, donc, et là-dessus, comme par extraordinaire, les seules jurisprudences positives que l'on connaisse en matière d'aléas thérapeutiques ou de fautes provoquant la mort d'un patient, c'est des condamnations indemnitaires prononcées par la juridiction administrative. Et encore, la juridiction administrative condamne à des dommages parfois importants, d'ailleurs, franchement, dans les cas de suicide, lorsque la personne s'est suicidée dans les murs, pour le défaut de surveillance. Donc on voit bien que c'est juste au plan administratif et juste l'administration elle-même, l'hôpital, la personne morale et pas les agents. Et là-dessus, pour en surajouter, il y a ce qu'on appelle l'article L4124-2 du Code de la santé publique sur la saisine du Conseil de l'Ordre, qui a été réformée en 2006, veut que les médecins du cadre public ou les médecins experts ou les diplômés de médecine participant à une mission de service public ne peuvent pas, en cas de faute, être déférés directement au Conseil de l'Ordre des médecins. C'est une saisine indirecte, soit par les tutelles, soit la saisine, soit le Conseil de l'Ordre décide de s'autosaisir. Donc, des médecins du cadre, à l'espèce les prescripteurs, des médecins prescripteurs, par exemple, sur le Loxapac, si l'on considère que l'administration de Loxapac a fait partie du tableau qui a conduit à la mort de cet intéressé, ce médecin psychiatre ne peut pas être traduit directement devant le Conseil de l'Ordre. C'est QFD.
Je suis fauché. Tous mes tourments proviennent de l'argent. Je suis fauché. J'ai peur de rencontrer plusieurs de mes amis. Aussi je dors le jour, ne sortant que la nuit. De peur qu'ils apprennent que je suis fini. Je suis fauché. Qu'il peut faire pour m'aider. Mais je souris, car lui aussi, il est fou. perdu. Les malheureux au jeu n'ont pas d'amour heureux. Je voudrais pleurer, je voudrais crier, je suis fauché.
C'était Eddie Mitchell, Fauché, et c'est toujours L'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie sur Radio Libertaire, 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste, avec André Bitton, et nous commentons l'actualité.
Alors, eh bien, je pourrais dire, au vu des nouveaux progrès scientifiques et techniques qui sont rentabilisés, enfin qui commencent à l'être, en psychiatrie santé mentale, notamment l'utilisation de l'Internet, de l'intelligence artificielle et autres dispositifs. Réjouissez-vous, mes frères, mes sœurs, le progrès avance. Et donc, des dispositifs médicaux numériques en santé mentale sont lauréats France 2030. La nouvelle psychiatrie est donc avancée. Dépêche d'Aspimédia du 10 septembre 2025. Regardez, je dois dire que pour quelqu'un comme moi, ça ne change rien. J'ai été isolé enfant et j'ai fait ma vie dans un certain isolement. Donc moi, personnellement, ça, c'est toutes les personnes avec handicap. On n'a pas grand-chose à faire. Mais quand même, que ce soit déshumanisé à ce point qu'on nous mette des robots conversationnels au lieu de soignants, ça pose problème. Bon. Le ministère chargé de la Santé, Ospimédia, 10 septembre 2025, a dévoilé la liste des trois lauréats de l'appel à projet dédié aux dispositifs médicaux numériques en santé mentale et des 29 lauréats de celui concernant les solutions dans les tiers-lieux d'expérimentation. La délégation au numérique en santé, DNS. Retenez ce nouveau cycle, il y a eu DGS, DGOS, etc. Maintenant, c'est DNS, la délégation au numérique en santé, a annoncé le 8 septembre par voie de communiqué les lauréats de la première vague de l'appel à projet sur les dispositifs médicaux numériques en santé mentale et de la troisième expérimentation de solutions numériques dans les tiers-lieux dans le cadre du programme France 2030. Alors, a retenu trois projets. Le ministère a retenu trois projets. Le premier, porté par Teremia, une entreprise, vise à développer un outil d'aide à la décision pour les prescriptions d'antidépresseurs adaptées aux patients grâce à l'intelligence artificielle et aux données de vie réelles et validées directement par les cliniciens et les retours patients. Or, on sait que lorsqu'il y a un guide à la prescription, ce guide finit par être impératif. Il n'est pas seulement indicatif, parce que la paresse humaine étant ce qu'elle est. Voilà. Le second, proposé par Emobot, prévoit la validation clinique d'une solution de télésurveillance passive permettant de repérer les signes de rechute ou de non-réponse à un traitement sans action du patient, en passant par l'analyse du visage, de la voix et du sommeil. Soyez compliants, sinon bien l'intelligence artificielle s'occupe de vous. Le troisième est un projet imaginé par Résilience qui concerne un outil de télésurveillance dédié aux patients suivis pour épisodes dépressifs majeurs. Les fonds débloqués serviront à la mise en place d'une étude clinique et économique de la solution développée. Cet appel à projet opéré pour le compte de l'État par BPI France, Bien. Rappelle la DNS, la division en matière d'intelligence artificielle, enfin d'informatisation, vise à favoriser l'émergence accélérée d'entreprises leaders dans leur domaine, pouvant prétendre à une envergure mondiale en accélérant une des phases de développement et d'accès au marché. Les 29 lauréats dans les tiers-lieux sont, alors suit une liste d'entreprises d'intelligence artificielle qui sont investies en santé, bien.
Oui, qui font principalement de la surveillance pour la plupart.
Enfin, il faut reprendre, je pense qu'il faut reprendre la nouvelle délégation du ministère de la Santé, DNS, délégation au numérique en santé. C'est pas que de la surveillance, en fait. C'est carrément de la prescription.
Oui.
De la surveillance, bien sûr, mais également du dépistage. Du dépistage.
Oui, je vois, il y a même de la chirurgie.
Oui. Alors. Mais le problème, c'est que cela correspond à une déshumanisation des prises en charge. Voilà. Alors, j'avais mis un commentaire le 10 septembre, parfaitement problématique. Le premier dispositif réduit très fortement la part humaine de décision. Quant au deuxième et troisième dispositif, ce sont des outils destinés à assurer les profits des firmes pharmaceutiques et à contrôler jusque dans l'intimité la prise de traitement et la compliance des patients. Ces outils sont-ils testés sur des patients en modalité de soins sans consentement et de préférence majeure protégée, comme on a l'habitude, n'est-ce pas? Là-dessus, il faut savoir qu'il y a une tribune dans Le Monde d'un médecin, je ne sais plus quelle spécialité, je l'ai mise de côté, mais bon, là, je ne l'ai pas sorti, s'insurgeant du fait que, d'après des études sérieuses en économie de la santé, la moitié des patients suivis pour affection longue durée arrêtent leur traitement à un moment donné. Et que donc, il s'agirait, pour des mesures d'économie en santé et de santé publique, de mettre en place des dispositifs qui garantissent la compliance.
Exactement, oui. La régularité de la consommation.
Oui. Or, le problème en psychiatrie, c'est que la majorité des écoles de psychiatrie, et l'école dominante en l'espèce, considère que lorsqu'un traitement est inauguré, que ce traitement ou un autre traitement ne sont arrêtés qu'à la mort du patient. Bien, c'est pas. On voit sur quelle pente on est. Donc, on se dit que, a fortiori, la dystopie qui avait été publiée par Ira Levin en 1970, c'est un bonheur insoutenable, se concrétise à l'heure actuelle. Et c'est vraiment très grave. Alors, Antoine Lininger, de notre bureau, m'avait répondu, je me rappelle avoir été révulsé en 2020 en apprenant, ça je l'avais fait savoir autour de moi, Mathieu Bellassin l'avait repris, l'expérimentation article 51, c'est-à-dire les nouveautés sur l'enveloppe de l'ONDAM réservée à la psychiatrie. Il y a un article, enfin la psychiatrie, la santé, bon en général, il y a un article 51 sur les projets novateurs. Donc quand on lit article 51, les projets novateurs. C'était passeport BP pour bipolaire et le développement de la solution MentalWise de la start-up Semeia. Celle-ci promettait déjà d'anticiper et d'intervenir just in time au moindre mouvement suspect en captant et croisant par IA, intelligence artificielle, toutes les données possibles sur le patient. C'était aussi la première fois que j'entendais l'expression case manager pour désigner l'opérateur infirmier. 3 ans plus tôt, il y avait eu Abilify MySight, premier médicament connecté autorisé aux USA qui intègre un capteur quand il a été ingéré. Pardon, pour répondre si rarement, le moral, bon, il est... Bon, voilà, donc, c'est... Alors voilà, on en est quand même là. Et là, je veux dire, avec la raréfaction des bonnes volontés pour bosser en psychiatrie, c'est bien, comment dire, la e-santé qui est avancée. Et c'est un rapport au robot.
Oui.
C'est ennuyeux. C'est purement et simplement ennuyeux.
Et puis ça maintient la chronicisation des patients.
Alors, ça dépend comment on s'en sert. Hein.
Oui, ça, voilà. Oui, bien sûr.
Ça dépend comment on s'en sert.
Tel que c'est parti là.
C'est mal barré. Ouais. C'est vraiment mal barré. Alors, là-dessus, une autre dépêche de Spimedia. Alors, faut savoir qu'il y a une crise d'attractivité en psychiatrie qui est le nœud du problème pour le ministère. Mais comment intéresser les gens pour qu'ils viennent enfin bosser en psychiatrie? Un quart des postes de psychiatres est vacant en psychiatrie publique. Enfin, écoutez, oui. Et pour les infirmiers, c'est pareil.
C'est vrai que dans cette émission, on fait pas beaucoup de publicité positive sur la psychiatrie.
Ben, il n'y a pas de quoi.
Il n'y a pas de quoi, évidemment.
On peut pas. Il y a quelques secteurs, évidemment. Il y a quelques secteurs. Mais pourquoi il faut en passer par là? Parce que quand tu prends des sites officiels, tel Psycom, le site Psycom qui est bien, il est très nourri. Quand on interroge les responsables du site Psycom, Mme Odkaria et ses chargés de mission, elles viennent vous dire, nous, on valorise des bonnes nouvelles. Bien. Donc la conséquence est la suivante. Vous silenciez les drames qui ont cours dans ces institutions. Et nos voix, vous participez à les étouffer. Hein. Alors, donc, quelque part, que l'on puisse... Bon, maintenant, c'est plus possible d'étouffer nos voix. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées depuis une quinzaine d'années. C'est juste plus possible. Et d'ailleurs, ils ont pris le coup. Hein, puisque, comme le disait une sociologue au colloque de la Fac de droit en 2024 à Caen, on n'a jamais vu dans l'histoire de la psychiatrie française une explosion de témoignages comme on la connaît depuis une quinzaine d'années avec l'Internet. Donc alors, pour la DGOS, Direction Générale de l'Organisation des Soins, Ministère de la Santé, la problématique de l'attractivité et la gestion des ressources humaines en psychiatrie sont le nœud des problèmes et le nerf de la guerre, estime la directrice de la DGOS. Elle a échangé avec les députés sur les leviers activés ou envisagés. Alors, l'enjeu central du manque d'attractivité des métiers en psychiatrie et des difficultés pour le recrutement dans les postes vacants a été longuement abordé lors d'une audition de représentantes de la DGOS à l'Assemblée nationale le 9 septembre, entendue par la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques et de prise en charge de la santé mentale et du handicap. Marie Daudet, directrice générale de l'offre des soins, Anne Ego-Buru, sous-directrice de la prise en charge hospitalière et du parcours ville-hôpital, ont répondu aux questions des députés sur cette problématique majeure. Elles ont abordé les leviers activés ou envisagés, le nerf de la guerre. Paradoxalement, la crise très forte que traverse la psychiatrie actuellement n'est visiblement pas résolue par des crédits supplémentaires. C'est Mathieu Bellassène qui, interviewé sur un plateau de Ça vous regarde, hein, par Myriam Ancavois, avait dit « Non, les gens se battent là-dessus par dignité, pour la dignité. » C'est vrai. Et donc le fric, ça va. Donc l'effort n'a jamais été aussi important. A tenu à souligner en introduction Marie Daudet, la DGOS, les difficultés qui visiblement ne se résolvent pas uniquement par injection de moyens financiers viennent d'un réel défaut d'attractivité des métiers de la psychiatrie et des ressources humaines disponibles. En 2023, un poste de psychiatrie sur 4 était vacant dans les hôpitaux publics, a développé la DGOS, et on constate aussi chaque année un taux d'inadéquation très fort entre les postes d'internes en psychiatrie offerts et ceux pourvus lors du concours. La spécialité n'est donc pas celle qui fait le plein et qui attire les jeunes médecins. C'est une des moins prises avec le concours de l'internat. À cela s'ajoutent des disparités régionales importantes qui entraînent mécaniquement des délais d'attente plus longs pour les patients et ce qui compromet l'accès à un diagnostic et à une prise en charge rapide. Face à ce constat de ressources humaines qui fait de l'attractivité le nerf de la guerre, le nœud du problème, a souligné Marie Daudet, le ministère a activé plusieurs leviers. D'abord, nous avons essayé via le Ségur de la Santé de réévaluer les carrières et les rémunérations des praticiens hospitaliers, mais aussi de développer l'exercice mixte ville-hôpital. Le ministère a aussi renforcé l'universitarisation de la filière avec en 2023 de nouveaux postes de professeurs des universités, praticiens hospitaliers, de maîtres de conférences en psychiatrie et en pédopsychiatrie afin de montrer aux jeunes praticiens les perspectives de carrière à l'hôpital. Appel aux PADHUE et aux infirmiers, notamment les infirmiers pratiques avancées, hein. Autorisé à faire des prescriptions. Interrogé par le rapporteur Sébastien Saint-Pasteur, député socialiste de Gironde, sur la possibilité d'un recours accru aux praticiens à diplôme hors Union européenne, PADHUE, PADHUE, la directrice a expliqué qu'un effort conséquent a été fait ces dernières années sur ces postes en psychiatrie. Nous avons plus que doublé le nombre de postes offerts et on a eu le même effet que sur l'internat, c'est-à-dire des postes en psychiatrie laissés vacants à hauteur de 30%, voire 50% dans certaines régions, a-t-elle détaillé, concluant que cette crise de l'attractivité de la formation en psychiatrie ne se retrouve probablement pas qu'en France. Au-delà de ces professionnels médicaux, le ministère a investi pour renforcer les CMP, les centres médico-psychologiques, avec des financements pérennes, 18 millions d'euros pour les CMP adultes, soit environ 300 équivalents temps plein, 38 millions d'euros pour les CMP enfants et adolescents, soit un potentiel de plus de 600 équivalents temps plein, sans compter 30 millions pour soutenir des dispositifs spécifiques comme les unités mères-bébés ou les équipes mobiles. Pourtant, ces crédits-là n'ont pas tous donné naissance à création de postes, malgré la délégation effective de crédits, puisque, encore une fois, la ressource humaine en psychiatrie est une denrée rare. La montée en compétences des équipes paramédicales est donc encouragée. Plus de 540 infirmiers en pratique avancée, donc pouvant faire des prescriptions en santé mentale et en psychiatrie, ont déjà été formés et nous avons 200 étudiants dans la nouvelle promotion 23-24. Ça veut dire une déqualification. La nouvelle réforme du maintien infirmier va donner naissance à un arrêté rénovant la formation avec une part spécifique à la psychiatrie, dont une obligation de stage et une durée minimale pour ces derniers. Enfin, Anne Egoburu a rappelé le levier des dispositifs mis en place par les deux grands appels à projets nationaux annuels sur la pédopsychiatrie et sur les innovations organisationnelles en psychiatrie. Le déploiement du dispositif Mon Soutien Psy, qui a été très polémiqué par les psychologues, a aussi été abordé. Nous sommes vraiment dans cette idée de trouver des solutions pragmatiques en fonction des ressources disponibles, a commenté la sous-directrice. Il s'agit là encore de mobiliser au-delà des psychiatres, d'autres professionnels de santé, notamment des infirmiers, dont ceux en pratique avancée, les psychologues. Je ne parle pas de la pérédance. Il y a eu deux réactions, la mienne et celle d'un infirmier. Louis-Charles Ribardière. Le fait de rendre un stage obligatoire en psychiatrie pour les étudiants infirmiers n'est pas une nouveauté. C'est déjà le cas dans le référentiel actuel avec 10 semaines. C'est aussi le cas avec le précédent référentiel de 1992 qui a créé le diplôme unique et qui a vu la disparition de la spécificité des infirmiers de secteur psychiatrique. Il y avait alors une période de 12 semaines sur les 3 années effectuées. Ces stages peuvent parfois conduire certains étudiants à envisager un projet auquel ils n'avaient pas pensé à l'entrée à l'Institut de formation des soins infirmiers. Mais cela reste à la marge. Les IPA sont bien sûr très utiles, mais insuffisants en nombre pour pallier aux pénuries. Créer une spécialité d'une année supplémentaire avec une grille salariale en reconnaissant la plus-value sur le modèle des IPE puéricultrices ou des IBOD pour l'anesthésie pourrait donner envie à de jeunes infirmiers de rejoindre les équipes hospitalières. Cela permettrait qu'ils se sentent mieux préparés pour faire face aux situations rencontrées et valorisées financièrement. Il faudrait bien sûr engager les moyens conséquents pour y parvenir. Mais cela, c'est qu'un reproche sur les moyens. Moi, ce que j'ai répondu dans mon commentaire, notre association a été à de nombreuses reprises destinataire de confidences, dénonciations de professionnels du soin psychiatrique ayant exercé dans le public sur leurs conditions de travail et sur ce qu'ils étaient amenés à faire. Une de ces confidences était la suivante, je la résume en substance. Ce médecin psychiatre nous disait qu'il prenait son poste le matin dans un établissement psychiatrique public. La réunion d'équipe se déroulait, puis il faisait la visite des patients. Ceux-ci étaient sédatés et injectés. Il n'y avait en conséquence rien d'autre à faire que de s'assurer de la compliance au traitement et d'un insight, d'une acceptation de la maladie, etc., obtenu sous terreur. Écœuré, ce médecin psychiatre compétent et entre autres soignants, à l'écoute des patients, a démissionné du cadre public. Il n'est vraiment pas le seul. D'autres médecins psychiatres ou des infirmiers ont été découragés de vouloir bien faire, d'être proches des patients, de se demander quels étaient les ressorts qui avaient amené ces malades à développer une pathologie et ont dû quitter soit l'intra-hospitalier, soit carrément cette profession.
Je ne serai plus psychiatre.
Alors oui, alors ça c'est la thèse de Gérard Hoff. Bon, alors c'est une trajectoire, celle de Gérard Hoff est une trajectoire...
Ah non, mais je mélange pas tout.
Non, mais c'est une trajectoire qui correspond à ces années 70 et au romantisme révolutionnaire, hein, qui confinait à un nihilisme.
Non, mais c'est...
Mais d'autres, et là-dessus je te rejoins, et c'est pour ça que si Gérard Hoff c'est un cas paroxystique, il y en a d'autres. Bernard de Fréminville a quitté la médecine. Hein
oui, il nous a produit un excellent livre, La raison du plus fort.
Oui, traiter ou maltraiter les fous. Voilà, un dictionnaire des mauvais traitements.
Oui, c'est une histoire de l'aliénisme, en fait.
Oui, avec un dictionnaire. Oui. Il y a un dictionnaire.
À l'intérieur, oui, tout à fait, des traitements aliénisé. Voilà.
Donc en fait, alors moi je rejoins tout à fait la thèse de Jacques Hochmann qui a combattu Gérard Roff, puisque Jacques Hochmann, qui était pédopsychiatre, un ponte, voilà, très psychothérapie institutionnelle au Vinatier, il a participé à faire la guerre à Gérard Roff et à obtenir que celui-ci, bon, soit mis hors poste. Bon, voilà. Gérard Roff dit très justement dans son bouquin de 2013-2014, je crois, Les antipsychiatries, une histoire, la psychiatrie ne peut marcher qu'avec une antipsychiatrie en état de marche.
Oui, c'est comme un catalyseur, en fait.
Une mauvaise conscience.
Well, it ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. It ain't no use to sit and wonder why. Don't matter anyhow. When the rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in turning on your light, babe. The light I never know. And it ain't no use in turning on your light. I'm on the dark side of the road. Still, I wish there was something you could do or say. Make me wanna change my mind and stay. We never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right.
John Baez, Don't Think Twice, It's All Right, sur Radio Libertaire 89.4, La Voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération Anarchiste. C'est toujours L'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie avec André Bitton du CRPA.
Alors on sait, je conclurai là-dessus, cette intervention sur L'Entonnoir, que depuis à peu près un an, il y a une pénurie de traitements psychiatriques, il y a une rupture de stock, puisque certains produits ne sont pas du tout du fait des délocalisations fabriquées en France. La France n'est pas autosuffisante là-dessus. Et donc, les usines se trouvent qui en Grèce ou ailleurs. Des ruptures d'approvisionnement ont cours, notamment sur la quetiapine, autrement dit le xéroxel, je crois, et d'autres molécules. Il y a même une pénurie sur la ritaline et des pétitions circulent. Des pétitions circulent et nous faisons partie des personnes qui disent « Mais non, pourquoi ? C'est une chance, tout simplement une chance. » Alors je voudrais lire la réponse que j'ai faite à une de ces pétitionnaires
Et donc, je réponds à cela. Dans ce pays, comme dans l'ensemble des latitudes occidentales, voire plus précisément les USA, nous subissons depuis près de 60 ans une sorte de guerre de l'opium. Le seuil de gravité à partir duquel on déclenche une psychiatrisation, où l'on diagnostique une pathologie mentale et où on prescrit des traitements définitifs, d'ailleurs, qui ne sont même pas arrêtables, a été considérablement abaissé depuis l'ouverture des institutions psychiatriques au début des années 70. Cette situation se traduit actuellement par une quantité pour le moins problématique en termes de santé publique et de liberté individuelle de quelque 8,4 millions de personnes en France même qui ont à voir avec la psychiatrie, que ce soit dans un cadre institutionnel ou en extra-hospitalier, ou par le biais de prescriptions de traitements psychiatriques sur le très long cours, prescriptions souvent faites par des généralistes. Voir à ce sujet le récent ouvrage de la docteure Sylvie Wieworka, psychiatre et ancienne adjointe au maire de Paris, femme d'Alain Gesmard par ailleurs, que nous connaissons bien. Que s'est-il passé dans la tête des Français 2024, Buchet-Chastel? Trop de personnes sont chronicisées, abêties, déshumanisées, rendues à un état infrahumain, à vivoter en étant sous la menace d'une mise sous contrainte aux soins. Je dis et nous disons qu'il s'agit d'un enfermement médiqué dans une condition infrahumaine qui n'est pas sans préparer un futur toujours plus grave. C'est pas parce que des patients se plaignent avec leur famille, suratteintes caractérisées avec une dépendance, que l'on doit laisser passer cette scandaleuse situation où des millions de personnes en France sont assujetties et accoutumées à des prises de traitements psychiatriques sur le très long cours. Ces traitements déclenchent des addictions et les personnes ne peuvent même pas se passer de ces traitements, faute que soient déployés en France des programmes de sevrage graduel tels que le Québec, par exemple, en connaît depuis pratiquement un quart de siècle. Voir la consultation de sevrage accompagnée au traitement psychiatrique que vient d'initier depuis moins d'un an la docteure Maëva Musso, jeune psychiatre, présidente du syndicat des psychiatres addictologues d'ailleurs, qui est une première. Cette première consacre l'arriération française en la matière. Si c'est une première en 2024-25, c'est vraiment que la France est arriérée. Des études objectives de santé publique, voire certaines études de l'IRDEST, Institut de recherche en économie de la santé, ont évalué que l'espérance de vie des patients longuement chronicisés en milieu psychiatrique ou en extra-hospitalier et prenant sur le très long cours des traitements psychiatriques est réduite de 10 à 15 ans. Il est inadmissible que dans ce pays, on ne déclare même pas de rétablissement en bonne et due forme, on ne déclare plus de guérison de pathologie psychiatrique depuis l'expansion du marché des psychotropes légaux à partir des années 60. On a donc, les firmes pharmaceutiques et les prescripteurs ont un marché captif. Pas plus, pas moins, c'est ce qu'on appelle un marché captif en termes d'études de marché, etc. On ne déclare que des rémissions sous condition d'assujettissement à des traitements psychiatriques qui souvent sont par leurs effets déshumanisants. Alors, il est par ailleurs inadmissible que dans ce pays, la représentation majoritaire des usagers de la psychiatrie dans les instances hospitalières soit le fait de l'UNAFAM, que choisir, l'UDAF, et pas des associations de patients elles-mêmes. Et lorsque ce sont des associations de patients, elles sont recrutées et alignées sur des programmes de subvention qui font que leurs représentants font pas grand-chose. Et donc, je réponds à cette pétitionnaire, mais qu'est-ce qui vous prend de ne pas réaliser à quel point ces traitements abrutissants aux effets secondaires sont scandaleusement durs à encaisser et peuvent même être utilisés comme moyen de torture, ainsi que tel a été le cas pour l'Aldol lors du goulag soviétique sous le règne de Brejnev. Alors, en février, j'avais été amené à répondre à ce qui suit une pétitionnaire. Cette fois, c'est une personne atteinte de pathologie et qui trouvait inadmissible de ne pas trouver son traitement. Elle avait fait 36 pharmacies et elle avait lancé également une pétition. Et donc, j'avais répondu, je vous remercie de votre mail. Vraiment, c'est sympathique de m'avoir inclus dans votre liste de diffusion, du moins sur le point que vous abordez. À vrai dire, en première réaction, je trouve que l'information dont vous nous faites part d'une rupture de stock de la quétiapine, un antipsychotique, c'est une information positive. Cette rupture de stock due à une délocalisation des unités de production vers la Grèce, en l'espèce, pourrait être pour vous, comme pour d'autres personnes, une occasion de démarrer un sevrage sur ce genre de produits psychotropes. J'insiste auprès de vous sur le fait que les antipsychotiques et les autres traitements psychiatriques sont des psychotropes légaux. La France est un pays dont une ample partie de la population est sous traitement psychotrope, en particulier les jeunes générations, pour lesquelles on sait que l'ensemble des substances stupéfiantes, mais aussi des traitements psychotropes sur prescription, voire des traitements opioïdes, font des ravages. Des millions de personnes dans notre pays passent des dealers aux prescripteurs de psychotropes légaux. La France est un pays où vous êtes drogué de gré ou de force, singulière conception de la santé publique.
Merci André, ainsi se termine l'entonnoir.